mot le plus triste de James Matthew Barrie. Extrait du Chapeau de Greenwood, mémoire de James Annan, 1885-1887. Précédé d'une introduction de Céline Albin Fèvre. Le nom de James Matthew Barrie a presque été effacé de nos mémoires par son personnage le plus célèbre. Le criminel a pour identité Peter Pan. Cette disparition n'était pas pour déplaire totalement à l'écrivain. En effet, jusqu'à sa mort, Barrie s'est toujours abrité derrière ses œuvres ou des doubles littéraires. Avec humour, il lui arrivait même de prétendre ne pas être l'auteur de son terrible chef-d'œuvre, Peter Pan. Il jouait avec l'idée de l'anonymat, précisément. Lorsqu'il était jeune homme, James Matthew Barrie avait choisi le pseudonyme Annan. Parfois, le nom était décliné en James Annan. Annan est le diminutif du mot anonyme. Cela pourrait sembler étrange, mais Barrie ne fit que détourner un usage très banal à l'époque au sein des journaux. Les aspirants écrivains se faisaient la main avec des articles qui étaient publiés sans nom d'auteur, anonymement. Il est à noter que la toute première version de la pièce qui allait devenir Peter Pan s'intitulait Annan. Barrie était l'un de ces jeunes anonymes lorsqu'un célèbre rédacteur en chef et homme de lettres commença à publier ses premiers articles importants. Cet homme se nommait Frédéric Greenwood. Barrie n'oubliera jamais celui qui lui mit le pied à l'étrier. 7 ans avant sa mort, Barrie rédigera ses mémoires et évoquera la figure de son bienfaiteur du temps jadis. Ses mémoires ont pour titre « Le chapeau de Greenwood », sous-titré « Mémoire de James Annan, 1885-1887 ». Les textes que nous présentons aujourd'hui en sont extraits. Mais quel est donc ce fameux chapeau? Lorsque Barrie rendit visite à Greenwood pour la première fois, il acheta un haut de forme d'occasion. Il voulait se donner de la prestance et quelques pouces en su car il était complexé par sa petite taille. Certains de ses premiers articles furent par la suite conservés dans le carton à chapeau, d'où le titre de ses mémoires. Les premiers textes de Barrie, publiés par Greenwood, étaient des esquisses. Ils avaient tous pour objet les habitants de Kirriemuir, sa petite ville natale en Écosse. Ces hommes et femmes étaient des Old Lichts. Cela signifie, en dialecte écossais, les vieilles lumières. Ces vieilles lumières étaient les membres d'une secte dissidente de l'Église presbytérienne. Ils étaient réputés pour leur puritanisme. La mère de Barrie, Margaret Ogilvy, appartenait à cette communauté. Barrie n'a pas connu la vie des Old Lichts, mais il s'est approprié les souvenirs de sa mère pour en tirer les textes publiés par Greenwood. Face à l'apparente simplicité du style de Barrie, le lecteur ou l'auditeur ne doit pas être dupe. James Matthew Barrie pense presque toujours le contraire de ce qu'il fait semblant de dire. L'émotion est déportée, car l'écrivain la repousse ou ne peut l'affronter de plein fouet. Pourtant, reproche fut faite à Barrie d'être sentimental. Il l'était, assurément. Mais en général, on se trompe sur le sens de ce mot. Être sentimental pour Barrie signifie agir en artiste. Il feint une émotion qu'il ne peut pas éprouver. Mais il donne une émotion bien réelle, celle-là, au lecteur. Le paradoxe barrien se dévoile tout entier. Il écrira ceci. Donnez une chance à l'humour et au pathos et ils s'unissent comme 2 gouttes d'eau. Tenez-les à l'écart l'un de l'autre et ils meurent, chacun de leur côté, de l'absence de l'autre. Barrie nous donne par ces mots la formule de son précipité littéraire. Au cœur de ces textes ici présentés, il est parfois difficile de ne pas se perdre dans la temporalité instaurée par Barrie. Un dialogue s'engage entre le Barrie qui est proche de la mort et qui écrit ses mémoires et le jeune homme qu'il fut. Annan est ce jeune homme immortel. Barry, vieillissant, parle d'Anon comme s'il n'avait pas été ce jeune homme. Barry se dédouble sans cesse. Tantôt jugeant et comptant celui qu'il fut, comme s'il lui était étranger. Tantôt se fondant avec lui pour le faire parler à nouveau. Comme si le présent et le passé se télescopaient encore et toujours. Entre jamais et jamais plus.
Le chapeau de Greenwood. Pris d'un désir d'extrême franchise, je me demande si j'ai écrit ces mémoires d'Anon afin d'égayer mes amis ou si, désœuvré, ce n'était pas plutôt pour me rappeler mon passé. Je ne résiste pas à la tentation du sentimentalisme. Il est bien possible que le lecteur se dise « ce n'est pas la première fois ». J'espère qu'un sourire indulgent accompagne cette pensée. Oui, j'aurais aimé que le sentiment prît congé de moi, mais il est bel et bien à l'œuvre entre ces lignes. Dans ma prime enfance, un autre garçon du même âge que moi se trouvait malheureux parce qu'il ne pouvait prendre part à notre jeu brutal de crainte d'abîmer ses vêtements de deuil. Alors, grand seigneur, j'ai changé ma tenue contre la sienne pendant une heure, et dans mes habits il s'amusa, insouciant, tandis que dans les siens, assis sur une pierre, je gémissais avec force larmes, quoique je n'eusse aucune idée de la personne à qui étaient destinés ces pleurs. Une découverte récente me rend peut-être sentimental d'une semblable manière face à ces écrits en provenance du passé. Voici le sens de mon propos. Inopinément, j'ai trouvé un bouquet d'articles flétris dans un vieux carton à chapeau, lequel était une découverte encore bien plus sentimentale que son contenu. Cela incita un ami à faire des recherches au British Museum où le moindre imprimé est conservé. D'autres anciens articles déterrés là-bas furent photographiés et finirent par me parvenir sous forme de lettres blanches sur fond noir, semblant être en deuil d'eux-mêmes. Ce garçon de jadis aurait pu les enfiler et pleurer de nouveau. Après avoir passé un an à écrire des éditoriaux pour un journal de Nottingham, Anon, bien que ce ne fût pas encore son nom, avait commencé à envoyer des articles à Londres, à l'intention de Greenwood, qui officiait à la St. James Gazette. La plupart d'entre eux lui furent expédiés. Mais quelques-uns furent imprimés, et sur l'un des rejetés, le brillant homme avait griffonné « Mais j'ai aimé cette chose écossaise, en avez-vous d'autres de ce genre ?» Il s'agissait du premier papier d'Anon consacré aux « Old Lists ». Et le 17 novembre 1884, jour de sa publication, fut à marquer d'une pierre blanche. En adressant cet article, il pensait avoir épuisé le sujet. Mais en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, il avait posté un enterrement au Licht, accepté, qui conduisit rapidement à l'envoi d'une cour à la au Licht, accepté. Et à partir de ce moment-là, je puis vous affirmer qu'il passait la majeure partie de son temps derrière son métier à tisser les Old Lichts. Ici, vous ne lirez aucun de ces articles-là, ni ceux ayant trait au tabac, ni d'autres encore qui devinrent eux aussi, par la suite, des fragments de livres. Dans ce petit volume, il est question des articles qu'Anon publia sans signature pendant 2 ans. Mais cette situation lui convenait. Autrement, il lui aurait été encore plus difficile à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir ses entrées. Greenwood, connu pour aimer à donner sa chance aux débutants, s'amusait lorsqu'un article anonyme était attribué à quelqu'un de célèbre et qu'il était en mesure de rétorquer « Non, l'auteur en est Bob, Bill ou Thomas Anon ». Cependant, je n'étais pas encore, comme je l'ai déjà dit, l'un de ces anones, bien que je fusse un fervent prétendant. Après qu'il eut fait publier environ une douzaine de mes propositions, je lui écrivis de Dumfries, où je séjournais alors avec mon frère, pour lui faire part de mon ambition de m'installer à Londres. Une foi toute écossaise m'animait et m'autorisait à croire que je pouvais vivre d'une seule livre par semaine. Je ne demandais pas un poste dans ce journal et, en effet, si l'on excepte cette année passée à Nottingham, j'ai œuvré toute ma vie de manière indépendante. En tout état de cause, je promis de respecter sa décision. Elle me parvint rapidement, il me conseillait de rester à l'endroit où j'étais, en attendant qu'il découvrît un peu plus mon travail. Ainsi, pour le dire sans embâge, je partis pour Londres la semaine suivante, dans la nuit du 28 mars 1885. Il est étrange que je ne sois pas en mesure de me souvenir du temps qu'il faisait cette nuit-là. Moi qui ai fait si grand cas de la couleur du ciel dans les premières pages de contes moins émouvants que celui-ci. Observons notre héros, aux yeux grands ouverts, juste au moment où il s'assoit dans son compartiment. Il est bien conscient de l'unique alternative, se percher ou lâcher prise, comme une chauve-souris dans le noir derrière le volet. Le pauvre fou jette un œil soupçonneux sur le moindre compagnon de voyage aimable avec lui. Il est gauche et bafouille. Il est aussi épais qu'un crayon à papier, mais pas aussi long, et il va perdre de l'épaisseur. En guise d'expression, un blanc gênant. Affublé de lourdes bottines dont les clous ressortent à l'intérieur, qu'il cirera tout spécialement à l'occasion de mondanité. Porte une montre en argent achetée par son père à un colporteur pour son 14e anniversaire. Quelle occasion! Toujours sur lui, numéro 57841, ne possède pas de tenue de soirée rangée dans une boîte en bois, mais peut sembler vêtu de la sorte lorsqu'il est dos au mur, des manières hérissées de clous à l'instar de ses bottines. Les dames ont décidé qu'il n'avait aucune importance. Il le sait déjà et en conçoit un secret tourment. Est le sentiment comme un esclave peut haïr son maître. Un seul atout à son actif, bien qu'il ne soit pas d'ordre pécuniaire, une rigueur inflexible face à l'échec. Atout d'ordre pécuniaire, 12 livres dans une poche dérobée qu'il presse de temps en temps, si bien que l'on s'imaginerait presque qu'il s'agit de son cœur. Il entend, et peut-être est-ce également votre cas, les espoirs et les craintes qui cognent en lui. Ce coup, plus sourd que les autres, signifie que le train est arrivé en gare de Saint-Pancras. Le mot le plus triste, sombre passage de l'histoire d'Anon. Je me trouvais à bord du Scotch Express en direction de Londres. Et je crois que c'est à l'arrêt de Carlisle que ces 5 jeunes filles toutes bonnes à marier montèrent dans mon compartiment. Lorsque leurs bagages furent arrangés et qu'elles furent installées confortablement dans leurs sièges, leurs regards se posèrent sur moi et leur verdict sans appel fut rendu dans la langue des signes. Hélas, je la comprenais. Je déchiffrais ces mots absolument inoffensifs. Puis elles ne firent plus attention à moi pendant tout le reste du voyage. Elles parlaient ostensiblement des choses les plus intimes, comme si je me trouvais au loin dans la voiture du contrôleur. C'est un traitement auquel je suis habitué. Mais jamais peut-être je ne fus effacé à ce point. Pourtant, je sais bien qu'avec un autre visage, je pourrais être absolument nocif. Leur causerie me l'apprit. Elles se rendaient à un mariage où au moins 2 d'entre elles officiaient en tant que demoiselles d'honneur. Elles avaient autant de sujets de conversation que de chocolat, mais Celui sur lequel elles s'attardèrent avec le plus d'affection fut le mot le plus triste. Une grande fille, au regard empreint de poésie, pensait que le mot le plus triste était « jamais plus ». C'était la plus jolie de mes pimbèches. Ses joues étaient du plus délicat carmin et ses yeux étaient deux lacs. Les doigts qui m'avaient jeté cet anathème reflétaient grâce et éducation. Sa voix, capable des modulations les plus variées, ici douces et tendres, là graves et veloutées, mais toujours claires et cristallines, étaient d'un timbre qui avait le don d'émouvoir du plus profond de son âme un homme qui n'était point inoffensif. Jamais plus. Selon elle, le mot vibrait comme le gémissement d'un cœur brisé. C'était un juge, prononçant une condamnation à mort. Jamais plus. C'était l'incessante plainte des vagues, se fracassant contre les rochers escarpés et les mouettes tourbillonnant autour des falaises répercutées de leurs cris stridents cette lamentation. Ce qu'elle aimait particulièrement, c'était la cruauté du jamais plus. Il était aussi cruel que la tombe. N'était-il pas la tombe elle-même, la tombe où reposaient les espoirs de l'homme et ses aspirations? Il ne hélait le souvenir que pour rendre l'avenir plus amer. Ceux qui avaient été aimés, ou celui qui avait été aimé, où étaient-ils tous? Où était-il, lui, loin, par-delà les mers? Nous ne le rencontrerions jamais plus. Nos danses, ah, nous ne danserons jamais plus ensemble. Les sourires offerts, la chaude main serrée, si banale, débordante de promesses, les nuits sur la rivière, lorsque le canot glissait vers l'embouchure, telle une ombre, le jour de leur rencontre, aussi joyeux que la cloche annonçant un mariage, tout cela, tout cela, s'était enfui, jamais plus. La rivière coule, mais quand la reverront-ils ensemble, avec la lune blafarde pour témoin? Le jardin d'hiver est toujours là, mais est-ce le jardin d'hiver des jours du temps jadis? Oh, jamais plus, jamais plus. À présent, elle ne pouvait plus poser son regard sur un corbeau sans l'imaginer croasser ce funeste et solennel mot. « Jamais plus, fit le corbeau, était le vers le plus triste de la poésie anglaise. » Jamais plus ne semblait pas si indiciblement lugubre que le simple « jamais » aux yeux d'une deuxième jeune fille, qui était sans le moindre doute possible la plus jolie du compartiment et en outre était assise sur mon journal. Ce n'est pas faire offense aux autres que de déclarer qu'elle rayonnait à côté d'elle, telle la lune parmi les étoiles. Pourtant le soleil était un emblème plus approprié tant elle semblait être un rayon de soleil plutôt qu'un être de chair et de sang. Sa silhouette était petite, modelée au gré d'enchanteresse rondeur, et elle devait son noble port de tête à un cou aussi blanc que la neige immaculée. Ses cheveux dorés, ou bien d'un noir de jais, car il m'arrivait d'être un peu perdu, s'échappaient de son unique ruban et tombaient avec générosité sur ses épaules harmonieuses. Caressant ses délicates oreilles coquillages, et de temps à autre effleuré d'un baiser ses lèvres rouges et boudeuses, dont certains hommes un tantinet nocif auraient gaiement fait la cible de leur prouesse. Ses yeux embués semblaient toujours sur le point de briller à la faveur d'une larme, et tandis qu'elle parlait d'une manière hésitante et rêveuse, elle émiettait lentement un pain au raisin pour en extraire les fruits. Jamais était plus triste que jamais plus, parce que celui-là ne renfermait même pas les douceurs de la mémoire. Jamais plus, signifiait que vous aviez beau être vieux et chenu, il y eut jadis des moments de bonheur sur lesquels vous pouviez vous retourner avec tendresse. Ils étaient passés, mais ils furent. Nul réconfort de la sorte ne pouvait être obtenu du jamais. Le regard furtif de l'amoureux, la main que l'on presse, tous ces moments pendant lesquels on vit toute une existence. Il était triste, en effet, de songer qu'il n'adviendrait plus. Mais il est encore plus triste de penser que jamais il n'avait été, jamais plus était une condamnation pour l'avenir. Jamais une condamnation pour le passé et l'avenir. Le plus triste de tout, c'est que jamais signifiait que vous étiez conscient d'être passé à côté de tout cela et de devoir continuer à le faire jusqu'à la fin. Le vers le plus terrible de la langue anglaise n'était pas « jamais plus fit le corbeau », mais « jamais pour toujours, jamais ». Le glas sonnait. Lorsque la tombe était comblée et les collines anciennes renvoyaient l'écho de mots funèbres, c'était en automne dans les bois que l'on pouvait en goûter le sens, quand toutes les branches étaient dépouillées et que sous la caresse du froid, les arbres nus frissonnaient. Tout en se promenant parmi les feuilles mortes et rouillées, ou en mangeant des pains aux raisins dans le train, elle aimait à murmurer ces mots « jamais pour toujours jamais ». Les autres étaient belles, certes. Mais la troisième qui ouvrit la bouche était une reine parmi celles de son sexe, majestueuse, digne, exceptionnelle. Ses yeux étaient aussi noirs que la mort, et ses cils étaient de la même nuance, des yeux merveilleux qui vous donnaient le coup de grâce, et elle n'échappait pas plus que vous à leur pouvoir. Deux arches sombres marquaient bas le sourcil, et sa peau couleur crème avait cette touche incarnate qui fait à la fois l'admiration et le désespoir du peintre. Sa teinte évoquait le pétale de magnolia couché sur une feuille de rose. Ses mains blanches et fermes étaient potelées et creusées de fossettes. Ses doigts étaient agiles et ses ongles évoquaient les camées. Il pourrait chercher à provoquer le genre d'homme qui en valait la peine, à savoir n'importe lequel, sauf un homme inoffensif. Elle parlait d'une voix séduisante et cette douce musique retentissait dans le compartiment. D'après elle, plus triste qu'aucun autre mot était l'histoire recelée dans cette phrase « cela aurait pu être ». Jamais plus avait à voir avec la fatalité. Quelle que soit l'amertume du « jamais », ce n'était pas votre faute. Le destin en avait décidé ainsi. Jamais plus vous n'y pouviez rien. Avec le « cela aurait pu être », tout était différent. Une part de responsabilité vous incombait, et qu'est-ce qui était plus amer dans cette vallée de larmes que la conscience que vous souffriez de votre propre erreur, de votre propre aveuglement? Vous prenez le sac et la cendre à présent, et cela aurait pu être la robe de mariée. Cela aurait pu être. Avec ces mots, vous revenez à la porte tapissée de chèvrefeuilles, celle de votre jeunesse. Ah, comme vous vous souvenez bien d'elle, avec ses chevrons cassés et le loquet qui cliquetait. Il vint. Il était impatient, peut-être. Mais vous, vous étiez évasive et vous vous séparâtes pour ne plus jamais vous revoir. Ce fut le tournant de votre vie. Vous ne le compreniez pas alors. Vous le savez désormais. Et comme cela aurait pu être aisément. Ou bien était-ce le bal du régiment? Et vous étiez assis sur une marche de l'escalier avec un autre. Vous rêviez d'être avec lui, car vous aviez parfaitement lu dans ses yeux les mots qu'il rêvait de vous dire. Mais bien que votre main eût frissonné de joie au contact de la sienne, vous étiez insensé et vous vous êtes assise à côté d'un autre. Insensé. Insensé, ainsi il tourna les talons pour vous quitter et la lumière s'éteignit pour toujours dans votre vie. Cela aurait pu être. Il existe un attrait pour certains visages qui excède le seul charme physique. Une fille qui pensait que ces simples mots « une fleur fanée » étaient les plus tristes, possédait un regard éthéré, faisant défaut aux autres. Un homme nocif aurait probablement davantage admiré les autres, mais il aurait choisi le siège situé auprès du sien. Qu'est-ce qui, en elle, provoquait ce subtil pouvoir de fascination? Par moments, vous auriez affirmé, si vous aviez été assez nocif pour que l'on estimât vos paroles dignes d'intérêt, qu'elle était absolument ordinaire et néanmoins, son visage vous hantait, à l'instar de ces peintures des vieux maîtres. Son visage racontait-il une histoire, exprimant qu'elle était de celles qui avaient déjà vécu et souffert? Elle regrettait qu'elle n'eût pas acheté de gâteau au chocolat au lieu de bonbons. Et c'était parce qu'une fleur fanée était pitoyable plutôt que tragique, qu'elle aimait davantage ces mots. Une fleur était l'emblème du bonheur, car celui-ci était éphémère, il était là aujourd'hui, et envolé le lendemain. Non, envolé n'est pas le mot, car la tige desséchée demeurait dans votre main, la fleur était le cadeau du bien-aimé, sans commune mesure avec les bijoux scintillants, car l'amour était une chose qui ne pouvait être achetée et une fleur ne coûtait rien de plus qu'un cœur brisé. Si quelqu'un pouvait écrire l'histoire de toutes les fleurs fanées qui ont été préservées, ce serait une histoire du cœur depuis la naissance d'Ève. La cinquième fille était un hymne à la gloire des foyers anglais. Une seule description d'elle était possible, une jeune fille anglaise. Un teint de printemps, un pas souple. Sa beauté rose était celle que la santé offre au visage. Elle avait été, selon toute évidence, une bonne enfant pour ses parents, et vous ne pouviez pas la regarder sans imaginer qu'elle ferait une bonne épouse si vous étiez suffisamment nocif pour l'attirer. Aucune autre fille ne peut être comparée à celle-ci. Elle estimait qu'il y avait quelque chose d'étrangement triste dans les mots « elle n'a jamais avoué son amour ». Songez à cet indicible chagrin de le voir, jour après jour, à mesure que les années s'écoulent, tout en sachant qu'il l'imagine dépourvu de cœur. Ah ! Le destin est parfois implacable. Il ne saura jamais que son amour pour lui est égal à celui qu'il éprouve pour elle. La fille qui avait plus de pain au raisin que les autres m'exaspéra tout particulièrement. Et ce fut pendant qu'elle babillait, comme elle l'avait toute fait, afin de désigner le type de butor auquel allait sa préférence, car toute leur discussion se ramenait à cela, que je commençais ostensiblement à converser avec moi-même dans la langue des signes. Ayant enfin obtenu leur attention pleine d'effroi, je me joignis un bref instant à leur bavardage. « Mesdames, dis-je en langue des signes, les mots les plus tristes qu'un jeune homme au cœur brisé peut se voir appliquer durant son voyage à Londres dans l'espoir d'y trouver fortune sont ceux-ci absolument inoffensifs. Puis je m'inclinai, si tant est que les Écossais soient capables de s'incliner, et disparus de manière inoffensive dans un autre compartiment. » Était-il déjà arrivé à Hanon, pendant le plus bref instant, d'entendre des dames parler de lui, dans un train ou dans quelque autre endroit? Hélas, ces dames ne parlaient pas de lui, et en cela résidait toute sa peine. À présent, ignorons ostensiblement ces jolies-là dans le compartiment, et concentrons-nous avec un aimable intérêt sur le terne personnage mâle dans le coin, Je me souviens, sans doute, qu'il était dans ses habitudes d'épouser les coins. À la longue, les coquines mirent cela sur le compte d'une modestie confinant à la timidité. Mais c'était une erreur. Ce comportement était la conséquence d'un profond découragement quant à son manque de charme. Elles avaient raison, ces dames dans le train. « Absolument inoffensif », avait-elle résumé, de quelque façon qu'il ait pu se débattre ou qu'il se débatte encore. Je ne parle pas de sa manière de plaire aux hommes, mais de la manière dont il ne plaisait pas à la gent féminine. Observez-le dans ce compartiment. Bien qu'insignifiant, il n'est pas laid. Être laid, si vous êtes suffisamment laid, est censé attirer les créatures à l'esprit capricieux. La gomme qui a effacé Anon s'appelle, et cela mérite un grand nom, individualité. Anon a lu et pensé avec un profond ressentiment bien des choses au sujet de l'individualité. C'est l'une de ces délicieuses caractéristiques qui reviennent si souvent sur les lèvres des femmes. Le genre d'homme, ma chère, qui est toujours le centre d'attraction, quel que soit l'endroit où il se trouve, quand vous pénétrez dans une pièce sans même le voir, vous savez qu'il est présent, et lorsqu'il s'en va, il laisse la trace de son absence. Nul besoin d'être séduisant pour être ce genre d'homme. Mais les hommes séduisants peuvent, comme on dit classiquement, l'être les doigts dans le nez. Et de toute façon, c'est au genre séduisant auquel notre pauvre Anon ambitionne d'appartenir. Si vous étiez capable de creuser profondément en lui, vous trouveriez d'abord son ambition rothschildienne, qui est de gagner une livre par jour, puis en dessous, son aspiration à trouver sa voie dans la littérature. Mais jusqu'à la moelle, il se vautre vainement dans le désir d'être le favori de ces dames. Il repousserait tous ses autres besoins en faveur de celui-ci. À tout prix, il s'efforce seulement d'obtenir les numéros 1 et 2, car il sait d'éternité la mort dans l'âme que le numéro 3 peut lui être à jamais inaccessible. Si encore elle le détestait ou le craignait, mais quel accablement de n'être qu'inoffensif. Nous continuons à l'observer dans le train. Vous qui ne le connaissez pas, déduisez qu'il s'est assis dans ce coin du compartiment au lieu de l'autre parce que, mettons, il aime faire face à la locomotive. Pas une once de vrai dans cette supposition. Je me souviens, et je sais donc qu'il est assis là afin de ne pas croiser le miroir. Sur l'un des côtés des compartiments, ainsi que vous le savez parfaitement, se trouve souvent un minuscule et étroit miroir, et notre monsieur Anon préfère lui tourner le dos. Les années passant, il n'a jamais dérogé à cette règle, et pas seulement dans les trains. J'ai entendu des gens affirmer, ou cela me fut rapporté, qu'à tel ou tel dîner, il était relativement enjoué, tandis qu'à un autre, il s'était affiché plus maussade que jamais. Ces gens-là ne savaient pas, personne ne le pouvait sans avoir sondé son cœur affligé, que dans la première situation, il tournait le dos à cet horrible miroir posé sur la cheminée, et dans la seconde circonstance, il se trouvait en vis-à-vis. Il avait traversé ses expériences les plus malheureuses en présence de miroirs placés au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, comme c'est le cas dans les restaurants. Je n'ai pas souvenir d'un miroir dans ses appartements, mais je suppose que s'il y en avait un, il avait été retourné contre le mur. Il avait entendu parler de tous ces autres mâles, dotés de qualités rédemptrices, par des dames indulgentes et ô combien elles pouvaient se montrer indulgentes fort mal à propos. Celui-ci était une oreille attentive, celui-là savait s'y prendre, ou son visage s'illuminait dès qu'il parlait. Anon était une oreille attentive, mais il ne donnait pas l'impression de savoir écouter. Et il aurait tout aussi bien pu porter les roues flaquettes de Herbert Spencer. Il n'avait certainement jamais su s'y prendre. Personne ne sait exactement ce qu'est la bonne façon, mais si vous la tenez, vous atteignez le port. Cependant, jadis, il possédait un sourire tout simplement irrésistible. Hélas, quelle tragédie! Ce pauvre fou n'en fut jamais conscient. Lui-même ne le vit jamais, ni l'un des effets engendrés par ce prodige, mais je crois être capable aujourd'hui de produire des témoins de ce sourire, et j'ai bien envie de le faire. L'histoire est du genre lamentable. Dans ma prime enfance, l'école que je fréquentais à Dumfries était mixte. Les filles, peu conscientes qu'elles se livraient à ma destruction, lancèrent un jour un vote pour désigner le garçon qui avait le sourire le plus doux. Ahuri, j'appris que j'arrivais en tête du classement. L'exaltation qui s'ensuivit me priva à tout jamais de mon sourire. Autant que l'on puisse en juger, je ne souris plus jamais à compter de ce jour-là. Si jamais en privé, pendant ses premières années passées à Londres, Anon contorsionnait son visage devant un miroir, vous pourriez déduire qu'il tentait de le faire revenir. Si ces jeunes filles sans cervelle, à l'époque où j'allais à l'école, ne m'avaient pas ravi mon unique atout, l'avenir d'Anon eût été probablement bien différent. Jamais il ne serait devenu ce bourreau de travail. Il lui aurait suffi de terrasser la gent féminine. Un jour, si vous voulez bien me pardonner mes bêtises, il sembla sur le point de jouir de son unique triomphe. Voici ce qui advint. Une belle dame accepta de l'accompagner à un audacieux déjeuner pour deux dans un hôtel au bord de l'eau. Comme ces souvenirs s'attachent à mon esprit. Il devait louer une voiture, cela en dit long sur les dimensions de l'histoire, et passer la prendre à son domicile. En effet, il loua la voiture, mais alors qu'il était à mi-chemin de l'hôtel, il se rendit compte qu'il était seul. Accaparé par quelques réflexions imbéciles concernant des problèmes matériels, il l'avait oublié. Il fit demi-tour à toute vitesse, mais ses explications pour justifier son retard furent assez piteuses et je suppose que ce déjeuner pour deux les attend toujours. Que peut faire un homme de lui-même lorsqu'il est tout juste bon à écrire laborieusement des romans et des pièces éraillées? Aujourd'hui, je peux comprendre la raison pour laquelle j'ai, à la fin, embrassé cette vocation. Peut-être est-ce la même raison qui anime tous les écrivains et les dramaturges.
Le mot le plus triste, de James Matthew Barrie. Extrait du Chapeau de Greenwood, mémoire de James Anon, 1885-1887. Choix des textes et traductions, Céline Albin-Fèvre. Dit par Claude Aufort et Céline Milia Baumgartner. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage et mixage, Guillaume Ledu et Nicolas Slimani. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Benjamin Habitant.
Ladies and gentlemen, you mustn't make any noise, or the weather will find out that something untoward has happened. When the child Hardy was born, the doctor thought he was dead and dropped him into a basket. That was an anxious moment, if we had known it, for our country. But a woman stepped forward to make sure and found he was alive. If Mr. Kennington had chosen to give us a statue of that woman, he would not have gone far amiss.